Alors, on a tous tendance à tergiverser sur certains projets, des fois, n'est-ce pas? Ce que je veux dire par ça, c'est à reporter à plus tard des choses qu'on n'a pas envie à faire. On n'est pas très motivé, des fois. On est pressé de faire autre chose. La date limite approche, mais on peut toujours attendre un peu plus, n'est-ce pas? Ce bruit dans le moteur, c'est pas très grave, il suffit de se surveiller, tout simplement. Ces devoirs pour lundi matin, je peux les faire sur le chemin de l'école, n'est-ce pas? Mes impôts, la fuite du robinet, ces emails, c'est pas grave, j'ai le temps. Mais on reporte aussi des choses plus graves, des fois. Le pardon, par exemple, le pardon de quelqu'un qui nous a blessés, l'encouragement de quelqu'un qui souffre, ou un moment passé avec quelqu'un qui en a besoin. On est occupé par d'autres choses. Mais pire encore, on néglige notre vie spirituelle. On néglige notre vie spirituelle. Peut-être que vous vous êtes déjà dit, je suis jeune et donc la vie, la mort, l'éternité, j'ai toute la vie devant moi pour réfléchir à ces questions. Je n'ai pas besoin de penser à ces choses maintenant. Peut-être que vous avez déjà dit, je veux vivre un peu et faire ce que je veux avant de m'engager vis-à-vis de Dieu et de l'Église. Dieu, ça c'est pour les femmes âgées. Dieu, ça c'est pour les gens qui sont prêts de mourir ou qui ont peur. Si on est honnête, on s'est tous dit, à un moment ou à un autre, je peux m'occuper de ma vie avec Dieu, ma relation avec Dieu plus tard. Mais vous n'êtes pas le premier de penser comme ça. En fait, il y a 3000 ans, plus ou moins, le roi philosophe d'Israël, ce qu'on appelle le Kohelet, le roi philosophe d'Israël, qui est auteur du texte qu'on va lire en quelques instants, a constaté la même ou les mêmes tendances autour de lui. Dans Ecclésiaste chapitre 12, à la fin de son discours sur la vie sous le soleil, le Kohelet, le roi philosophe, nous donne un conseil simple, mais qui résume tout. Il dit tout simplement, souvenez-vous de votre Créateur. Souvenez-vous de votre Créateur. Tournez-vous maintenant vers votre Dieu. L'heure est venue, il nous dit. L'heure est venue. Le moment est maintenant de se repentir devant Dieu, de croire en ses promesses, de mettre sa foi en lui. Si vous êtes toujours jeune, tant mieux, il dit. Si vous êtes plus âgé, ce n'est pas trop tard. L'heure est venue. On va lire dans Ecclésiaste, chapitre 11, verset 7, chapitre 12, verset 7. D'accord? Ecclésiaste 11, 7 à 12, 7. La lumière est douce, et c'est bon pour les yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, il se réjouisse en elle toutes, qu'il se rappelle que les jours de ténèbres seront nombreux. Tout ce qui arrive est vanité. Jeune homme, réjouis-toi pendant ton adolescence, que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Écarte de ton cœur le tracas. Éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours du malheur viennent et que les années soient proches, dont tu diras, je n'y trouve aucun agrément. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et les nuages reviennent après la pluie, ce jour-là, les gardiens de la maison tremblent. Les hommes vaillants se courbent. Celles qui doivent moudre s'arrêtent parce qu'elles sont devenues peu nombreuses. Ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule. L'on se lève au chant de l'oiseau. Toutes les chanteuses s'affaiblissent. L'on craint ce qui est élevé. L'on a des terreurs en chemin. L'amandier fleurit. La sauterelle devient pesante. La capre n'a plus d'effet. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Et les pleureurs circulent dans la rue. Avant que le cordon d'argent se détache, que le globe d'or se casse, que la jarre se brise sur la source, et que la roue se casse sur la citerne. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu, qui l'a donné. On va arrêter notre lecture là, et avant de continuer, je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, qui est une lumière sur notre sentier. Que ta parole, Seigneur, habite en nous, dans toute sa richesse, pour que nous apprenions ta vérité, que nous vivions en nous appuyant sur tes promesses, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, pour résumer ce qu'on a déjà vu dans le récit de l'Ecclésiaste, dans ce livre, le livre de l'Ecclésiaste est composé de trois parties principales, d'accord, trois parties principales. Un prologue qui introduit, qui résume la pensée du Kohelet au début, suivi ensuite par ce qu'on a lu aujourd'hui, en fait le chapitre 2 jusqu'au chapitre 12, c'est le discours du Kohelet, et enfin on a la conclusion, la fin de chapitre 12. Donc ça c'est le livre de l'Ecclésiaste. Et le Kohelet nous a montré l'absurdité d'une vie nihiliste. C'est ça son but. Il nous a montré tous les problèmes qui proviennent d'une vie où Dieu resterait loin de nous et nous de lui. Il nous a montré combien nous avions besoin de Dieu en nous décrivant l'alternative qui est l'absurdité, la vanité. Le Kohelet termine donc son discours par ces paroles sombres et solennelles dans ce texte. Malgré les joies de la vie, malgré la jeunesse, malgré les plaisirs matériels, malgré la souffrance, malgré la vanité et la douleur d'une vie absurde, malgré vos circonstances, votre attitude, votre situation aujourd'hui, malgré toutes ces choses, il y a une chose à faire. Souvenez-vous de votre Créateur. Souvenez-vous de votre Créateur. L'image dans ce texte est une image de la fin. C'est l'image de quelqu'un qui cherche une dernière réponse à la vie, avant de fermer les yeux pour la dernière fois. C'est le conseil d'un homme qui, à un moment donné, a mis sa confiance dans son avenir, et ensuite il a mis sa confiance dans son passé, et il a pris finalement que la réponse à la vie et à la mort se trouvait auprès de son Créateur. Regardez les versets 7 à 8. On va commencer là. Les versets 7 à 8. Le Kohelet mentionne le plaisir qu'on trouve en voyant le soleil. Il mentionne le bien qu'il y a à vivre beaucoup d'années et à se réjouir des bonnes choses dans la vie. Mais il constate que la fin arrive. La fin arrive. Les ténèbres arrivent. La vanité arrive. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour échapper à cette mort imminente. On ne peut pas saisir l'éternité en se tournant vers l'avenir. La vie s'améliore jusqu'à un point, en fait. La vie s'améliore jusqu'à un point, mais les ténèbres approchent. Le Kohelet est en train de nous avertir contre l'idée selon laquelle la vie devient meilleure avec le temps. Surtout, il nous avertit contre l'idée selon laquelle la réponse à la vie devient plus claire avec le temps si on continue de chercher une espérance sous le soleil, c'est-à-dire ici-bas, en nous-mêmes. C'est vrai qu'avec l'âge, nous devenons plus indépendants des autorités, plus autonomes, plus stable financièrement, mais jusqu'à un point. Jusqu'à un point. Après, il arrive que la vanité, la fin imminente. C'est comme quelqu'un qui remarque une petite tache bizarre sur sa peau. Ce n'est pas très grave, il l'ignore parce qu'il y a d'autres soucis dans la vie, d'autres choses qui le préoccupent. Il profite du soleil, des biens qui sont devant lui, comme on lit dans ces versets. Il pense qu'avec le temps, cette tâche va disparaître peut-être. Mais non, elle se transforme finalement en une horreur qui produit des métastases et qui provoque à la fin la ruine pour cet homme-là, pour cet optimiste. On peut imaginer que le Qohélète est maintenant avancé en âge, qu'il s'adresse à son peuple, à ses sujets, peut-être pour la dernière fois, en disant « Écoutez mes fils et mes filles, l'espérance ne se trouve pas dans votre avenir, elle ne se trouve pas dans un monde meilleur, réel ou imaginé, elle ne se trouve pas dans ce que vous créez. Ce que vous attend à la fin, c'est la vanité. C'est la vanité. » Et si la réponse à cette vie ne trouve pas dans notre avenir, elle se trouve peut-être dans notre passé. Elle se trouve peut-être dans la jeunesse. Et dans les versets 9 à 10, le Qohélète, le roi philosophe d'Israël, s'adresse au jeune homme en lui disant « Réjouis-toi pendant ton adolescence. » Mais comprends bien qu'on ne peut pas saisir l'éternité en revivant le passé. Tout est vanité. Tout est vanité. Une des religions le plus répandue dans notre monde aujourd'hui, c'est le jeunisme. Le jeunisme, le culte de la jeunesse, n'est-ce pas? C'est l'idée selon laquelle le corps n'est pas obligé de vieillir. Si on fait ce qu'il faut pour réduire les rides, pour raffermir la poitrine ou d'autres choses comme ça, pour couvrir tout signe de vieillissement. Et si on ne réussit pas à redevenir jeune, on peut au moins agir comme si on était jeune, n'est-ce pas? La jeunesse, c'est plus facile. Et je confesse qu'il y a des moments où je souhaiterais être encore un enfant, dépourvu de soucis, de responsabilités dans la vie. En fait, les enfants très jeunes ne s'inquiètent pas de savoir d'où va venir le prochain repas, par exemple. Ils jouent avec leurs jouets, ils dorment quand ils veulent, ils sont libres des soucis du travail, de l'argent, de la retraite, des impôts, tout ça. Même les ados ont une vie plus ou moins facile. Ils peuvent manger des pizzas et des hamburgers toute la journée sans prendre de poids, n'est-ce pas? C'est facile. Leur corps devient plus fort, pas plus faible. Ils ont toutes sortes de possibilités devant eux. Mais même la jeunesse a ses limites parce qu'elle ne dure pas longtemps. Elle ne dure pas longtemps. Le Qohélète nous donne un double conseil en nous disant que si on est vieux, on ne peut pas rattraper notre jeunesse. Et si on est jeune, il faut marcher dans la voie de Dieu. Il faut marcher dans la voie de Dieu. Vous regardez le verset 9. Vous pouvez maintenant protester par rapport à ce que je viens d'affirmer. On me dit, mais non, ce n'est pas ça le sens du verset 9. Il dit, marche selon la voie de ton cœur. Et donc voilà, faites ce que vous plaît. Mais en fait, si vous continuez de lire ce texte, ce verset, il devient évident qu'il y a un peu plus à ce conseil. Il y a un Dieu qui juge ce que vous faites. Et donc le Qohélète parle de la liberté que l'on a, mais dans les limites de ce que Dieu permet. Il est en train de dire tout simplement, marchez dans la voie de votre cœur quand votre cœur marche selon la voie de Dieu. Quand j'étais enfant et ado, j'habitais dans la campagne. Et j'avais un chien que j'aimais beaucoup, mais qui avait un esprit très indépendant et qui s'enfuyait tout le temps pour explorer le monde. D'accord? Et la solution à ce problème, c'était la fameuse clôture invisible. D'accord? Où on met un collier électrique au chien. Peut-être vous connaissez ce genre de truc. Qui va lui administrer un petit choc électrique quand le chien s'éloigne un peu trop, d'accord? Ça a très bien marché pour ce chien-là, au grand désespoir de mon chien. Alors, pourquoi je raconte ça? Je ne suis pas en train de dire que Dieu va nous administrer des chocs électriques, d'accord, à chaque fois que nous nous rebellons contre lui, contre ses commandements. Par contre, je veux dire que Dieu nous donne la liberté d'explorer et de profiter de ce monde, mais dans les limites de ce que Dieu permet. On peut marcher selon les voies de notre cœur, en sachant que si on s'éloigne de Dieu, son jugement nous attend. Il y a des conséquences pour nos actions. Et donc ce texte nous rappelle de suivre la voie de Dieu en marchant dans les voies de notre cœur. Donc pour résumer, le Colette dit que si vous êtes jeune, votre espérance ne se trouve pas dans votre avenir. Si vous êtes âgé, votre espérance ne se trouve pas dans la jeunesse. Et c'est ici que le Colette nous appelle à nous souvenir de notre Créateur. L'heure est venue, il nous dit. Souvenez-vous de votre Créateur. On va regarder les versets 1 à 8 du chapitre 12, qui est vraiment le cœur de ce texte. Les versets 1 à 8 du chapitre 12 prennent la forme d'un poème qui illustre la fin de vie, en utilisant des métaphores, des images diverses. L'idée derrière ces versets est la suivante. N'attendez pas la fin de la vie pour penser à Dieu. N'attendez pas la fin de la vie pour penser à Dieu. L'heure est venue. Comment répondre à Dieu aujourd'hui? Alors si vous êtes jeune, tant mieux. Vous avez une longue vie de foi devant vous. Si vous êtes plus âgé, ce n'est pas grave. Tournez-vous vers Dieu maintenant. C'est vraiment ça que dit le Colette. Ce poème commence au début de la vie avec le Créateur, celui qui nous a fait. C'est celui qui nous a formés dans le ventre de notre mère, comme le dit le psaume 139. C'est celui qui nous a connus avant la fondation du monde, comme dit Éphésiens chapitre 1. Et donc, ce poème commence par le Dieu qui nous a fait, et il finit au verset 7, par le Dieu vers qui nous retournons après notre mort. Ça commence avec Dieu, ça termine avec Dieu. Entre la création de la vie et la fin de la vie sur la terre, le texte nous parle de l'affaiblissement du corps. L'image commence par l'obscurcissement des lumières célestes, suivi d'une métaphore qui fait référence à une maison en ruine. Par exemple, on peut dire que les hommes vaillants qui se courbent au verset 3, ce sont les bras ou les jambes qui s'affaiblissent avec l'âge. Celles qui doivent moudre sont les dents, en fait. C'est les dents qui se mettent à tomber. L'amandier avec ses fleurs blanches représente sans doute les cheveux qui perdent leur couleur avec l'âge. Et bien sûr, on ne doit pas pousser trop loin la métaphore et perdre la beauté poétique de ce texte. Mais vous comprenez l'idée ici de l'âge, de la fatigue qui vient avec. La sauterelle traîne son corps dans la poussière à l'approche de l'automne. Les objets comme le globe d'or ou la jarre se cassent. Ils ne sont plus utiles. Même l'esprit, au verset 5 et 7, achève son séjour sur terre. Et à la fin, en fait, on ne sait pas. L'esprit retourne à Dieu, mais pour quelque chose de mieux ou de pire, ça, on ne sait pas. Le Colette nous laisse dans le mystère. Il ne nous laisse pas complètement sans espoir, mais il ne nous donne pas beaucoup de détails. Le Colette était un homme torturé, en fait. C'est un homme de sagesse, mais aussi un homme de folie. C'est un homme qui a beaucoup péché contre Dieu, mais qui nous a aussi avertis contre le péché. Il est réaliste. par rapport à la souffrance, il est réaliste par rapport à la mort et surtout par rapport à la vanité. Dans ces réflexions solennelles et même sombres à la fin de ce texte, il me fait penser à ceux qui approchent de la fin de leur vie dans le doute, dans la colère contre Dieu, qui commencent juste à ce moment-là à se poser des questions sur l'éternité. Le Qohélète a raison. Quand la fin arrive, ce n'est pas les questions qui nous soutiennent, c'est des souvenirs qui nous soutiennent. La fin n'est pas le moment de commencer à se poser des questions sur Dieu, sur l'éternité. Si on est sage, qu'on dit le Qohélète, on s'est déjà posé ces questions quand on était jeune. Selon certaines sources, les dernières paroles de Jean-Paul Sartre, l'athée philosophe français, il était connu pour son athéisme, mais ses dernières paroles, c'était ça. J'ai échoué. Et j'espère que nos dernières paroles à nous seront Dieu a réussi. Dieu a réussi. La fin est le moment de se souvenir de notre foi en Dieu, de sa fidélité envers nous. C'est le moment de se réjouir de tout ce que Dieu a fait, de se souvenir de notre Créateur, de se souvenir de notre Sauveur, Jésus, de se souvenir des promesses de Dieu dans notre vie. Ce texte, qui était écrit il y a 3000 ans, s'adresse à nous aujourd'hui. Et ce qu'il dit, c'est que pour vous qui hésitez, l'heure est venue. L'heure est venue. Pour ceux qui hésitent à connaître le Seigneur, l'heure est venue de lui répondre. Le Dieu qui a créé ce monde et qui nous a formés dans le ventre de votre mère est le même Dieu qui est venu sur terre afin de vivre une vie humaine avec toutes ses joies, avec toutes ses misères. C'est le même Dieu qui a pris sur lui la punition que vous méritez. C'est le même Dieu qui nous offre la vie éternelle dans sa présence, si on croit en lui. Peut-être que dans le passé, vous vous êtes fiché de Dieu, mais l'heure est venue. L'heure est venue de vous souvenir de votre Créateur. Si vous êtes jeune, tant mieux. Comme j'ai dit, souvenez-vous de Dieu dans votre jeunesse. Laissez votre foi en lui vous guider dans la vie et dans vos projets. Laissez votre connaissance de Dieu vous former en termes de caractère et de morale. Souvenez-vous de Dieu maintenant quand vous avez toute votre vie devant vous. Une vie que vous pouvez vivre pour sa gloire. Si vous êtes plus âgé, soyez encouragé par ces versets, ce poème. La Bible est honnête sur le vieillissement et la mort. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais Dieu accompagne les croyants dans cette vie et dans la prochaine. Il y a des moments où nous oublions Dieu. Il arrivera un jour, peut-être, où vous ne vous rappellerez pas grand-chose. Ça arrive. Mais soyez encouragés par le fait que Dieu se souvient toujours de ses enfants. Dieu se souvient toujours de ses enfants. Il ne nous abandonne pas. Il y a quelque chose de plus qu'on peut tirer aussi de ce texte. Et c'est ça. L'inertie vient plus naturellement que l'inspiration. D'accord ? L'inertie vient plus naturellement que l'inspiration. Autrement dit, l'heure est venue de cultiver votre vie spirituelle. N'attendez pas un bon sentiment pour vous motiver, d'accord? Agissez. Et je donne un exemple de ma vie. Pour Amy et moi, ma femme et moi, on a l'habitude de passer un moment dans la prière chaque matin. On passe un moment dans la prière avant de commencer la journée. Et souvent, notre moment de prière démarre un peu comme ça. Tu veux prier? Je n'ai pas vraiment envie. Toi? Moi non plus. On prie donc? Oui, faisons-le. Vous voyez, je raconte ça pour confesser le manque d'envie, le manque d'inspiration qui persiste souvent dans ma propre vie. Ce que j'ai appris, c'est que l'inertie vient plus naturellement que l'inspiration. Il y a des choses qu'il faut faire, tout simplement. Il y a des choses qu'il faut faire dans la vie spirituelle. Faites-le donc. C'est ça le sens de ce que le collègue dit dans ce texte. L'heure est venue. L'heure est venue. Pour nous les chrétiens, nous vivons dans l'amour pour Dieu, dans la foi en Jésus, dans la communion du Saint-Esprit. Que nous soyons jeunes ou vieux, Dieu nous guide vers notre éternité avec lui. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, nous te remercions de ce que tu te souviens toujours de tes enfants. Nous te remercions de ta fidélité et de ton amour. Aide-nous à vivre pour toi maintenant, Seigneur, et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen.